pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Nous vous diffusons un documentaire sonore intitulé « Personne ne se souviendra de nous », produit par Ludo Mepa et Américo Mariani au sein du collectif de radiographie urbaine. Dans ce documentaire sonore sur la violence de la rénovation urbaine, ce collectif tend l'oreille à trois histoires qui racontent ce que la disparition d'un logement et d'un quartier coûte à l'existence. Ces récits sont mis en perspective avec l'histoire de Toulouse et de son aménagement où la ruine, la destruction et la brutalité, loin d'être marginales, sont des éléments structurants. Il se construit donc autour des récits et des analyses de trois personnes qui ont eu affaire à ce processus. Alice Gallois, habitante de Feu, l'avenue de Lyon, Jennifer Espagna, habitante de Feu, la cité bleue, et Meryem Baya Arfaoui, habitante d'Ampalo. Ce collectif a partagé avec elle des archives de la destruction du quartier de Saint-Georges à Toulouse pour travailler la profondeur historique de la rénovation urbaine, tirant un fil fait de violence et de mépris entre le mi-temps du siècle dernier et aujourd'hui. Enfin, un engin de démolition s'exprime aussi sur son pénible travail, dévoilant là aussi des émotions contrastées. Bonne écoute!
Quand tu commences à mettre les barrières, à mettre le panneau, ça va être détruit et tout. Tu sais, t'es là, tu respires quand même, parce que ça prend du temps. Et après, quand c'est lancé,
c'est fini.
Ouais. Genre, ça, j'avais pas vu que ça commençait à se monter.
Et toi, tu vas voir un peu les démolitions
Je vais voir les démolitions que des endroits qui me tiennent à cœur, comme dans les grosses barres. Le rond-point aussi, genre, ils en ont fait un rond-point mis. Tu sais, vraiment, s'il y a un deux, quand on dirait un gâteau comme ça, il sert à rien, son point. Mais pas tout. C'est trop douloureux.
Moi, je suis pas retournée depuis que ça s'est transformé. C'est trop dur d'y retourner.
Bah, en fait, depuis le début que tu parles, j'essaie de me demander si ça a été une seule fois pas un travaux. Tu sais, par exemple, j'ai appris il y a pas longtemps que les grues, c'était des oiseaux. Genre, pour moi, les grues, toute ma vie, c'était Bah, c'était des grues, quoi. J'ai tout le temps vu des grues, les grues en ferraille. Et il y a pas longtemps, j'ai découvert que c'était aussi un nom d'oiseau. Et là, plus je remonte ma mémoire, et moins je me souviens d'un moment où des choses n'ont pas changé. Par contre, je vois des accélérations et accélérations ou pas. Le premier endroit où vraiment ça m'a, genre, ça m'a comme, je sais pas, étouffée à l'intérieur, c'est quand j'arrivais plus à me repérer. Genre, j'arrivais plus à me souvenir, tu sais, genre, je sais pas, le banc où je m'asseyais avec mon grand-père, j'arrivais plus à le situer. Et du coup, je me forçais à sortir, à marcher dans le quartier, à rester pendant longtemps devant un même endroit en me disant, vas-y, essaye de recomposer l'espace. Quand j'arrivais plus du tout, tu sais, c'est comme, les distances, elles sont plus les mêmes. La taille de l'espace, il est plus le même. J'arrivais plus à situer les choses. Je sais plus. Là, et vraiment, ça me flingue. Et des fois, ça me donne envie de me mettre des coups de poing à moi-même. J'arrive plus à te dire où est l'immeuble dans lequel j'ai grandi enfant. Où est l'immeuble dans lequel vivaient mes grands-parents et dans lequel j'allais tous les dimanches. La taille de l'espace, il a changé. Avec les nouveaux bâtiments, je sais même pas comment ça rentrait 6 barres là-dedans, maintenant.
Le mur qui est tombé. Hein.
Voilà, on la devine là, la cour. Ça, c'était mon entrée en fait. Mon entrée qui est. On voit l'encadrement un peu rouge bordeaux là, qui donnait sur la. Toute... En fait, tous les petits apparts, c'est que des petits apparts d'une ou deux pièces. Qui était distribué, mais de la cour, quoi, quasiment. On donnait tout sur cette cour. On voit les carreaux bleus, là, de la salle de bain. Et au fond, on voit la cuisine.
Tu veux nous montrer des photos?
Ouais, alors j'en ai pris trop parce que je savais plus lesquelles prendre, mais ça, c'est les photos que j'avais prises au moment où, bah, je pense où vous m'enregistrez. Je pense que c'était le même jour quand vous m'avez enregistré. Et donc c'est les photos de l'immeuble où je vivais. Et on voit la fameuse petite salle de bain. Je me souviens que j'avais parlé de ma petite salle de bain bleue. Voilà, avec tout qui est arraché. Avec, on voit des immeubles totalement éventrés sur plusieurs étages. Avec des bouts de tapisserie. Avec encore... là, je pense qu'elle est là, la violence. C'est plus les traces de vie, mais qui sont mises à mal... On avait une autre, elle me faisait penser à des lambeaux un peu, quoi. Donc, c'est l'immeuble qui a été... mais dont on voit, en fait, toute la façade côté rue a été détruite, mais on voit encore toutes les pièces.
J'étais juste, je crois que le 57 était au niveau du camion noir, hein. Juste là, donc on habitait là. Et quand tu vois tout cet espace, tu te dis, mais putain, non, vous prenez pas trop de place, quoi, finalement. Il y avait, je sais pas, 200 logements, là, et puis là, maintenant, on a un trou avec un terrain vague et puis des gens qui se garent dessus.
Ouais.
Et toi, tu te souviens, toi?
Ouais, j'arrive un peu à resituer parce que finalement l'endroit il est pas. Vu que tout le reste est resté et que ces cailloux là autour du terrain laissés vides, ils redessinent vraiment les barres quoi.
Ouais, c'est ça, ça fait l'angle de.
Et en même temps, c'est comme si elles n'avaient jamais été là quoi.
Ouais. C'est fait, on a la mémoire courte hein, pour tout, hein, sur l'histoire, sur,
Et puis, bon, on fait table rase, c'est le cas de le dire. Puis on oublie tout, puis on reconstruit par-dessus. Enfin, là, on attend que ça se reconstruise. Mais voilà, il y a eu des vies, il y a eu des histoires, il y a eu des familles. C'est comme si elles n'avaient jamais existé.
Et nous, on a été une des dernières familles à partir. Il ne restait plus personne dans notre bloc. Ce qui fait que y a aussi l'insécurité qui commence à arriver, les squatteurs, tout ça. On n'avait aucune importance, comme des numéros, de la marchandise. Très tôt, ouais. Déjà, c'est au niveau de la communication du bailleur social. C'est comme si on n'avait pas on avait aucune importance, en fait. La vie humaine n'a pas d'importance. Ah, il y a ce sentiment de légitimité, en fait, par rapport à ta condition de... Voilà, de pauvre, de... Il y a cette première violence-là, et puis après, il faut envisager, mais il va falloir la quitter, cette cité. Enfin, l'endroit où tu vis, où tu as tissé des liens, où tu as tes habitudes, tout ça, ben, ça va s'effacer à un moment donné. Ça vient un petit peu après. Puis avant, je suis née à Bellefontaine. Mmh. Donc un quartier encore, une fois, qui a été démoli et en reconstruction. Donc, en fait, tout ça, je le subis depuis toujours. Bellefontaine, c'était il y a très longtemps. Je l'avais quitté, ce quartier, depuis très, très, très longtemps. Mais ça m'avait fait un choc quand j'étais revenue pour voir comment ça se passait et tout ça. Et tous les bâtiments où on vivait, où j'avais l'habitude de circuler, où il y avait un espace de vie, ben, tout ça, ça n'existait plus. Et comme j'étais gamine quand j'habitais là, ben, j'avais encore des images, mais je ne savais plus trop si c'était... Je voulais retrouver en fait les images, de retracer le chemin de quand j'étais enfant, quoi. Et ce n'était plus possible. Et je n'avais pas de photos, je n'avais rien, donc...
Par là, quoi. Je sais plus, tu vois, genre, quand si le métro il est là, c'est-à-dire, je pense, la mosquée, elle était avec les espèces de bancs en mosaïque, là, qu'il y avait, des jolis bancs en mosaïque. Tu vois, les trucs un peu serpents, là.
Ouais.
Je me posais tout le temps avec mon grand-père, là. Je crois que c'était peut-être entre l'arrêt de bus et ce poteau. Je crois. Et genre, les départs au bled, l'été, c'était trop magnifique. T'avais toutes les voitures en bas et tout le monde qui descendait bagager les voitures l'un de l'autre. Et puis, ça prenait le départ ensemble. Ceux qui restaient, ils balançaient l'eau pour la bénédiction sur la route.
Du coup, t'as vu là où il y a le métro maintenant? Il reste la dernière barre en face, la bleue. Il y avait une autre barre à côté, orange, une autre barre bleue. Et l'autre barre bleue, c'est la première dont j'ai photographié la démolition. Et parce que c'était la barre sur laquelle il y avait, je sais plus comment il s'appelait cet artiste, l'immense portrait là, d'un visage de... Bon, pour moi c'était un Shibani, mais je pense que c'était pas un Shibani, mais en tout cas cet immense portrait. Et cette barre d'immeuble, moi je me souviens du jour où j'ai vu, genre, c'est pas rapide, c'est pendant longtemps c'est fermé, après ça vient, ça mange, ça tronche petit à petit, genre c'est vraiment une lente agonie, hein. C'est pas un truc de ah d'un coup là comme ça tu souffres, tu pleures et on passe à autre chose, c'est pas vrai, hein. C'est tu souffres tous les jours en passant devant, tous les soirs en passant devant, enfin c'est ça grignote. Et t'avais cette barre avec le Shibani du coup ici qui est peint. Et en fait, c'était mon repère parce que la barre qui était à côté avant, qui n'existe plus depuis un moment, c'était le 23. Et c'est vraiment là le cœur de ma famille. Ici, c'est quand c'était l'appart dans lequel vivaient mes grands-parents. Le 23 rue de Grasse, l'appart du coup dans lequel mes cousins et moi, on allait tous les dimanches ou tout le temps qu'on traînait. L'appart dans lequel on faisait les rendez-vous familiaux. Je sais pas, l'appart dans lequel... mon père, quand il était encore vivant, là, il venait nous voir. C'était, je sais pas, c'est l'appart familial, quoi, tu sais, le centre de repère. Et du coup, il y avait ce Shibani qui le regardait, et ça, moi, ça, c'était mon repère, le sens de son regard à lui. Et je m'étais raconté l'histoire de, là, quand je prenais en photo et en vidéo C'est en plus, c'était horrible parce que les grues, elles ont commencé à grignoter son visage. Genre, je veux dire, ça aurait pu commencer de l'autre côté. Mais là, c'était vraiment symboliquement, c'était affreux. Genre, c'était vraiment là, ça commençait à grignoter. Et du coup, ça restait pendant un jour. Il était coupé jusque-là, le deuxième jusque-là. Et... bon, bref. Et pour moi, comme c'était l'appartement que je... comment on dit, que j'assimilais à mon grand-père, notamment, qui est décédé en 2012. Du coup, c'était comme si je revivais un peu le deuil de mon grand-père. Il y avait un lien très fort entre cette image de Shibani et mon vrai Shibani à moi. Et d'ailleurs, il me reste une seule photo du 23 rue de Grasse extérieur où je suis sur la coursive avec mon grand-père et mon petit frère. Et pareil, quand j'étais retombée sur cette photo, j'étais là en mode, ah, ok, mon grand-père n'est plus là, cette barre d'immeuble n'est plus là, la barre d'immeuble qu'on voit en arrière-fond n'est plus là. Et genre, c'est une photo de que de choses qui n'existent plus.
Je suis une pelle hydraulique de démolition. La 352 UHD de chez Caterpillar. La Ferrari de la déconstruction. ...63 tonnes. 268 kN de puissance dans la mâchoire. 27 mètres de portée utile. Je démonte un immeuble de 9 étages en quelques heures. Propre. Le bois avec le bois, le fer avec le fer, les gravats avec les gravats. Idéal en zone urbaine dense. Idéal pour casser dans les vieilles villes. Je suis faite, et bien faite, pour ça. Pour ramener au sol toute la vanité d'une ville. Rendre à la poussière des années d'existence. C'est mon métier, ma fonction, mon destin et ma malédiction.
C'est le vide. C'est le vide et le vide a un bruit. C'est le bruit de ferraille de l'immeuble qui est vide, en fait. Et en plus, on était en plein hiver, donc il a fallu chauffer l'immeuble. Il faisait super froid. Il faisait 18-19 degrés alors qu'on chauffait à fond. Et quand on était au dernier étage, on entendait des craquements. C'est très bizarre. C'est lugubre, quoi. Le bruit du vide, des craquements de la tôle, des murs, je sais pas. Ça, on l'entend et c'est un peu flippant. Ça me donne l'impression d'un endroit complètement en friche, d'un endroit complètement délabré, un no man's land, et puis t'as encore des gens qui vivent dedans. Comment on peut laisser des gens vivre encore dans ces endroits-là. Puis on a vécu aussi des moments où, ben, puisque c'est tout délabré, il n'y a plus personne, parce que ça donne l'impression qu'il n'y avait plus personne, et ben, il y avait plein d'entreprises qui déversaient leurs déchets devant nos portes. T'avais des matelas, t'avais des meubles, t'avais de tout. Une déchetterie, quoi, c'était une déchetterie.
T'es resté combien de temps comme ça dans ce moment un peu...
Pas loin d'un an. dans tout un hiver. Sans personne dans l'immeuble. Dans l'immeuble. Et c'était... Et toi, t'as trouvé un logement, qu'est-ce qu'on t'a proposé, tout ça, faut faire attention. Chaque fois qu'on rencontrait un voisin dans la rue, c'était toute cette inquiétude-là voilà, c'était dans nos esprits, 24 heures sur 24. Il fallait vivre avec ça. Et surtout faire attention les uns aux autres, de pas trop subir la pression et d'accepter tout et n'importe quoi.
Quand je marchais dans le quartier, que c'est poussiéreux et que ma grand-mère, elle tousse. Et que t'es là et tu respires, t'as la poussière. Genre pendant des semaines, quand ils ont détruit la barre là-bas, il y a la poussière. Bah ouais, c'est violent de ouf. En vrai, je sais pas ce qu'on respire et tout. Et surtout, d'obliger des personnes à être... Tu sais, moi, je me sens comme en vis-à-vis avec sa propre disparition. T'es un truc de presse, c'est presque sadique. C'est comme si t'étais placé à un endroit où t'étais obligé de te regarder disparaître. Et ça, c'est ouf dans le cerveau, ce que ça fait. Genre, t'es comme... Bah, du coup, ça serait l'inverse d'enterré vivant, comme déterré vivant, parce qu'on te met à nu. Mais il y a un truc tu cohabites avec ta finitude. C'est un truc de ouf, quand même. Il y a quel autre espace où tu vis ça? En prison, peut-être. Mais genre, il y a un truc de tes... Ouais, tu marches, tu vis, tu te promènes dans un endroit où t'es en train de mourir. Littéralement. Et avec ce truc de... Moi, je sais que genre que je me force à vraiment entendre, écouter, etc. Parce qu'il y a un endroit où ça me rend ouf de me dire qu'une fois que nous, on sera passé, mais ça sera comme si... Rien ici n'avait jamais existé, alors que, je sais pas, c'est une trop belle histoire, l'histoire de ce quartier, comme l'histoire de plein de quartiers. Ben, de toute façon, c'est des histoires de vie, donc c'est forcément des belles et des moins belles histoires, mais... Oui, moi, je pense que le plus violent, c'est t'obliger à te regarder mourir. Tu répètes de moi même assez fort pour dire ce que ça fait dans le corps.
Voilà, ça c'est sur la rue. J'ai amené ça parce que c'était une de ma fenêtre. Et donc c'était avant la destruction et on voyait le... C'est parce que c'est un endroit où j'allais souvent et je regardais souvent par la fenêtre. Donc il y avait le parking. Avant que ça soit une zone de chantier. Et on voyait les voies ferrées, quoi. Les trains passés. Bon, ça fait pas comme si la ville était très vivante, mais elle l'était, je crois qu'il y en a une autre. Ça restait un quartier... Ouais, voilà, par exemple... Bon, là non plus, on dirait pas que c'est très vivant, mais il y avait encore Il y avait des gens qui étaient chez eux, il y avait des lumières, les boutiques étaient ouvertes. Voilà, c'est un quartier qui vivait, quoi. Il y avait plein d'odeurs, plein de choses... Je pense qu'il y avait au moins 6 ou 7 petits restos sur la rue. Donc, il y avait ça aussi, quoi, ça jouait.
Comment est-ce qu'on photographie une transformation?
Bon, je crois que j'y arrive pas, justement. Y a un côté un peu morbide en même temps de photographier les trucs qui disparaissent. Mais tu vois que les bâtiments ils se vident, que les gens... Donc t'as envie de photographier d'abord ce qui existe, l'état existant, avant que ça disparaisse, quoi. Mais je peux pas dire... Pourquoi on fait ça, je sais pas. Parce qu'on voit... Voilà, il y a le côté... assister à cette destruction et être un peu se sentir un peu impuissant et puis je sais pas et je pense que je prends des photos depuis toujours pour ça aussi, parce que la mémoire des... À la fois, on sent que c'est constitutif de ce qu'on est, de ce qu'on... Et qu'en même temps, on a beau avoir été très attaché à des endroits, à des lieux, on voit à quel point notre mémoire, elle est fugace, quoi. Et du coup, non, complètement. C'est le... Bah, c'est ce rapport au... C'est pas ce rapport au plus-là, parce qu'il y a le plus-là, mais qui continue d'exister en dehors. Une telle ville où j'ai pu vivre, telles amies, mais que je vois plus. Mais je sais qu'ils ont une continuité. Là, c'est vrai que c'est comme une entité qui, d'un coup, elle est réduite à néant, quoi.
Alors, 15 janvier 1955. Monsieur le maire, je vous prie de trouver 6 juin le rapport d'enquête que j'ai fait faire pour le quartier Saint-Georges. Historiquement, le quartier s'est retrouvé enclavé depuis le percement des avenues transversales et longitudinales. Depuis lors, encadré de grands immeubles de rapport assez luxueux, coincé entre des voies relativement larges, animé d'une circulation de plus en plus intense, il s'est replié dans ses petites rues. Figé dans ses formes anciennes alors que tout autour la ville se renouvelait, ce quartier traditionnellement populaire a vu se renforcer son caractère. Il est devenu une sorte de ghetto où la population pauvre vit dans des conditions d'hygiène et de confort qui n'ont guère changé depuis 4 ou 5 siècles. Ah ouais, on en est toujours là. Faute de ressources suffisantes, la population pauvre s'accroche à ses taudis. Ah ouais. C'est ouf d'écrire ça. En conclusion de cette étude, les conditions d'habitation du quartier Saint-Georges apparaissent caractérisées par la mauvaise utilisation du sol, qui aboutit à un entassement malsain de constructions basses sur des terrains à qui leur situation centrale confère une grande valeur vénale, des logements étroits, surpeuplés, mal aménagés et presque tous insalubres au moins en partie, une voirie étriquée presque inutilisable pour la circulation automobile, très peu d'immeubles intéressants au point de vue esthétique ou archéologique. Cet ensemble de constatations, joint à celles qui ont été faites quant au rôle de bouchon du quartier en plein cœur de la ville, aux faibles moyens de la majeure partie de la population, impose comme seule solution possible la démolition de l'ensemble du quartier. Ben voilà, frère. Ouais, c'est ouf, hein, on dirait que c'est la faute des gens qui habitent. Enfin bref, ça rend ouf. Le délogement de 2000 familles va poser des problèmes d'ordre psychologique. Ce quartier, en effet, peut-être justement parce qu'il est un quartier de taudis, est une des unités les plus vivantes, une des rares communautés caractérisées au centre-ville. La démolition des 9 dixièmes de maisons et la dispersion des habitants va automatiquement anéantir cette communauté. Il est absolument indispensable d'éviter que le mouvement de la population prenne le caractère d'un exode, encore moins d'une déportation. D'où nécessité d'opérer par tranches. Cela ne peut se faire qu'avec l'aide de personnes dévouées, des assistantes sociales par exemple. Là, c'est bien féminisé. Qui mettront le tact à la patience et la patience nécessaire pour ne pas heurter les habitudes des vieilles gens en particulier. Il importe en effet que cette rénovation du quartier Saint-Georges, qui est la première opération de ce genre d'entreprise à Toulouse, soit au maximum une réussite, de façon que les pouvoirs publics et l'opinion considèrent comme possible et souhaitable les futures opérations analogues qui seront nécessaires. Je vous prie de croire, monsieur le maire, à l'assurance de ma considération. Votre dévoué, Antoine Drapeau. C'est chaud.
Wow, regarde.
Waouh.
T'as vu? Regarde. On a attaqué le pont de mur là-haut.
Ouais.
Tu vois?
Wow. Wow. C'est tout le bruit.
Ouais. poussière aussi.
Et on voit plus les travaux.
Ça fait pas peur?
Non.
C'est vrai?
Moi, elle me fait peut-être peur.
Ouais, t'as un peu peur?
Ouais, j'ai un peu peur. Je vois pas la pince à cause de la poussière. Arrête, poussière. En plus, elle attaque tout. Et notre copain va aussi ramasser ça.
Ah oui, vas-tu ramasser, ouais.
Et il va recommencer.
Ouais.
Notre copain rouge.
Ça a été l'inverse parce que ma mère et moi et une autre famille, c'était une femme qui vivait seule avec ses enfants, ses 5 enfants. Et donc, on était les derniers à être relogés parce qu'à chaque fois, on avait des propositions de merde, des endroits. Enfin, voilà, ma mère n'a pas de véhicule, donc elle travaillait un petit peu loin. Donc, il fallait trouver un logement à proximité d'un transport en commun, d'un métro. Donc ça, c'était pas facile. Ou alors, c'était dans les logements trop petits. Et ça aussi, c'est un problème. Parce qu'ils mettent la pression, ils font peur à tout le monde. Peur de se retrouver à la rue, parce que si tu refuses 3 logements, tu te retrouves à la rue, finalement. Donc, du coup, beaucoup ont accepté des logements beaucoup plus petits que celui dans lequel ils vivaient. Et puis, il a fallu se débarrasser de ses affaires. Et ça, c'est dur. C'est des meubles de famille, c'est toute une histoire, en fait. Non seulement tu déménages dans un endroit qui ne te plaît pas, que tu n'as pas choisi, mais en plus, bah, tu dois te débarrasser de ta vie aussi matérielle, en fait. C'est toute l'histoire aussi de ta famille et de ta vie que tu dois jeter, que tu dois revendre.
Petit à petit, il y a eu l'interdiction de laisser du mobilier à l'extérieur. Et puis ensuite, c'était les fleurs, les plantes prenaient trop de place. Et donc, on a senti comme ça qu'il y avait une pression qui se mettait en place. Et je dirais que bon, on a laissé le plus possible parce qu'on était plusieurs à se connaître, à bien s'entendre. Et puis petit à petit, c'est clair que ça... Ça s'est vidé, il y a de moins en moins d'appartements qui étaient habités, et puis on a laissé... Enfin, moi, je ne suis pas partie à la toute fin. Il y a quelqu'un qui est venu après moi. Mais je suis revenue plusieurs fois dans cet immeuble, même sans y habiter, et il n'y avait plus rien. C'est-à-dire que là, il n'y avait plus du tout ni table, ni chaise, ni pot, ni plante, ni quoi que ce soit. Et ça, oui, ça fait partie des... La façon de... La façon de déjà de déposséder tout le vivant, quoi. Les habitants de ce qui les lie, de ce qui les... leur fait vivre le quotidien et tous ces espaces publics, en fait. Pas publics, mais disons communs. Ça, c'est clair. Après, plus généralement, sur la rue, cette rue, elle faisait au moment, sur les derniers mois, même les 2 dernières années, elle faisait pas quartier parce que c'était déjà tout émietté, quoi. Il y avait quelque chose qui, où en plus on n'avait pas tous les mêmes infos. Donc il y avait aussi cette façon, cette difficulté à faire groupe, quoi, en fait. Certains avaient eu quelques propositions, d'autres pas du tout. Donc il y avait aussi cette façon de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de lien entre les uns et les autres, quoi, c'est sûr. On sentait vraiment ce côté « on se soucie de rien », on fait comme si ce quartier était déjà vide, en fait. Ça, c'est clair. Ce sentiment de, je sais pas, d'être, de disparaître avec les murs, quoi.
Quand tu vois les engins qui démolissent des façades, que tu sais que il y avait un tel qui habitait là, tout ça, il y avait, voilà, c'est des traces de d'existence qu'ils sont en train de démolir. Ça te démolit aussi un peu. Hein. Il y a quelque chose qui part, quelque chose qui s'en va et que c'est irrémédiable. Ça, tu le sais.
Qu'est-ce que ça produit de passer là et qu'il n'y ait plus les bâtiments?
Encore une fois, c'est comme si on n'avait jamais existé. C'est comme si on n'existait pas. Ça nous renvoie à cette image-là, en fait. Et l'effacement de 20 ans de vie. Et heureusement qu'il y a encore des photos. Parce que... Bah, ça va rendre fou un peu. Parce que tu te dis, c'est, est-ce que ça existait? Est-ce que c'est vrai? C'est la réalité? Elle part en fuite un peu. C'est...
Bah après, ouais, c'est, moi, c'est la phrase qui me marquera, je pense, toute ma vie. C'est le jour où ma grand-mère elle m'a dit... quand ils étaient en train de détruire le bâtiment avec le Shiba Inu d'ailleurs, que Ampalo était en train de disparaître, que c'était plus comme avant parce que les vieux sont en train de mourir et que c'est d'autres personnes qui vont arriver après. Et qu'elle m'a dit, nous on est en train de disparaître et personne ne va se souvenir de nous. Et moi je pense que ça a été la claque. C'est à partir de ce moment-là que je me mets à filmer les trucs et à prendre en photo les choses. Dans un truc de ma grand-mère qui me répète aussi que si elle avait su écrire, elle aurait raconté l'histoire d'elle, de son arrivée en France, mais bah, du coup, de fait, du quartier, parce qu'elle est arrivée dans les années 80, il y a encore aujourd'hui, pour elle, la France, c'est un palo, le reste, c'est l'étranger.
Soyez bien à l'abri dans vos coquilles de briques, de bois et de tuiles, dans vos abris de fer et de béton. C'est du solide, construit pour durer. Me voilà et tout devient si frêle, si léger, fragile. J'ai ventre, j'arrache, j'écroule, je broie. Je déchire. Vos intimités s'exposent à la lumière. Papier peint désuet, petits carreaux de couleur. Combien d'années de vie se sont écoulées là? 10, 20, 30, 50, plus? Combien de nuits ont été abritées? Combien de rires? Combien de joies? Combien de coups aussi? Derrière vos murs qui ne protègent pas toujours. Quelle importance, une fois rendu à la poussière.
Ça, on avait parlé de cette tête de... qui vient broyer comme ça.
Très agressive.
Ouais.
Cette machine était une des plus, on dirait, des grosses, grosses dents. Donc cette machine est celle où c'est juste une énorme boule, mais qui vient éventrer comme ça l'intérieur des immeubles. Ça, c'était les deux machines d'une violence et je sais pas comment... Il y avait un côté exagéré, tu vois, d'utiliser ce genre de d'engins qui sont très proches de d'une imagerie carnassière, quoi. On dirait la gueule d'un monstre.
Et je me rappelle qu'elle venait comme ça attraper et puis broyé, et puis vraiment, tout paraissait si frêle, quoi. Mmh.
Des énormes, je me souviens d'IPN, énormes, d'un coup juste de la plier, de plier tout ça. Comme si tout sur ce sur quoi tu avais été pendant toutes ces années, c'était vraiment juste en cap là, quoi.
Ministère de la Reconstruction et du Logement, Bureau de l'Urbanisme, 15 janvier 1958. Monsieur le maire, je vous prie de trouver ci-joint le projet de convention tripartie entre la mairie de Toulouse, l'État et la Société d'économie mixte Toulouse Équipement. La commune et la société se sont entendues sur la nécessité de rénover l'îlot urbain défectueux dit quartier Saint-Georges à Toulouse. La réalisation de cette opération nécessite les opérations suivantes. 1. Acquérir les terrains et immeubles compris dans le périmètre de l'îlot. 2. Les libérer de leurs occupants. 3. Démolir les immeubles existants. 4. Réaliser l'infrastructure, voirie et réseau. 5. Construire des immeubles. Comme demandé et ajouté dans l'article 11 la mention suivante. De son côté, la société s'engage à démolir ou à rendre inhabitables les parties libérées dès que l'opération sera techniquement possible et quelle que soit la gêne qui pourra en résulter pour les autres occupants de l'immeuble ou des immeubles voisins sans que la responsabilité de la commune puisse être mise en cause à ce sujet. Copie adressée à la préfecture de Haute-Garonne. Je vous prie de croire, monsieur le maire, à l'assurance de ma considération, votre dévoué Antoine Drapeau.
D'accord. Il y a une colère que tu as dans les entrailles et que tu as besoin de justice pour que cette colère s'efface, s'en aille. Mais la justice, tu ne peux pas l'avoir parce qu'ils sont trop gros, ils sont trop grands, ils ont trop de pouvoir. Donc ça te renvoie encore une fois à ton existence qui ne représente pas grand-chose. Il faudra en parler, il faudra montrer comment c'était avant et surtout raconter l'histoire, comment ça s'est fait. Parce qu'il n'y a pas que Negronaise, comme tu disais tout à l'heure, c'est partout dans les grandes villes.
Après, j'ai pris... ça, c'est la rue du Maroc, mais les fenêtres des voisines donnaient ici sur ce mur. Et ce mur, c'est un mur qui est tout gris et qui est en permanence... Enfin, qui était, parce que là, j'ai pas regardé trop, mais qui était recouvert en permanence de phrases, de mots. Donc là... c'est nos désirs font désordre, je crois. Et puis, c'était de nouveau effacé. Donc, il y a toutes sortes de stratifications de gris clair, de gris foncé, qu'on peut deviner par là et qui, systématiquement, les phrases étaient effacées. Et c'est mes filles quand elles étaient petites. Et puis, c'est parce qu'il y avait écrit aujourd'hui, c'était encore... Il y avait encore des gens qui vivaient là. C'est puis c'est le premier immeuble qui a sauté là.
Mmh. Et puis c'était pas encore muré en plus.
Non, voilà, c'était pas muré.
Elle est belle cette photo. Ta fille avec ses petites
ailes. Avec ses petites ailes, ouais. Ses petites ailes, ça je sais pas, peut-être 2015. Non. Je sais pas. Et ça c'est Basic Fit avec. Voilà, le nouveau visage de notre quartier, épuré, dynamique, sportif et propre. Vivre ces espaces-là au quotidien, c'est... Non, on ne s'adapte pas forcément, en fait... Après, on ne peut pas être toujours triste et toujours... Et puis, ce n'est pas pour fantasmer ce qu'il y avait avant. Enfin, ce n'est pas ça. C'est le... Je crois que ce qui me désole vraiment le plus, c'est aussi cette, le côté moins... plus insidieux du fait de... Enfin, je n'ai pas les mots, quoi.
Comment tu définis, ça veut dire quoi, être chez soi? J'ai mis très longtemps à arriver à me formuler une hypothèse de définition de réponse. Et celle à laquelle je suis arrivée en dernier lieu, c'est quand je suis revenue vivre ici et que je me suis dit, mais en fait, chez moi, c'est là où je peux entasser des souvenirs. Genre en mode, les gens, ils ont des greniers, peut-être, tu vois, il y a des gens qui ont des maisons familiales, etc. Ils ont un grenier dans lequel ils peuvent retrouver les souvenirs d'enfance de leur mère, grand-mère, etc. Nous, on n'a que des souvenirs éparpillés. On n'a pas de bibliothèque. Les choses, ils sont... dispersé, mais le seul truc avec lequel je peux traverser le monde, c'est les souvenirs que j'ai à un endroit ou pas. Et du coup, moi, je pense chez moi, c'est un endroit qui m'impacte émotionnellement, qui m'émeut à plus ou moins grande échelle. Quand je passe là, à côté de la maternelle à Dast, moi, ça m'émeut parce que ma première amoureuse à Biba, c'était quand j'étais à cette maternelle et qu'on se faisait des bisous dans la cour. Ça veut dire que je passe à cet endroit. C'est un souvenir de ouf, un souvenir de premier amour. Là, c'est chez moi. Voilà. Et en fait, il m'a fallu attendre de trouver ça veut dire quoi. Quelle définition, moi, j'avais envie de mettre derrière le chez moi.
Créature mythologique, peur ancestrale. Je suis la bête tapie au fond de vos peurs préhistoriques, logée dans vos cerveaux reptiliens. J'habite vos imaginaires. L'autre soir, mon collègue a brûlé. Ici, pas loin, à deux pas, la rue d'à côté. Ça fait tout drôle de penser que comme ça, une nuit, en quelques minutes, tout peut s'arrêter. Dans un brasier infernal, un dernier feu d'artifice. Sans histoire et sans vous. La vie continue. Jusqu'à la prochaine fois.
C'est mon métier, ma fonction, mon destin et ma malédiction. Maintenant, on va repousser. En nous, des chiens propres, en nous. Dans l'ordre, sans histoire et sans esprit.
J'en ai perdu un mot. Je sais pas.
Jusqu'à la prochaine fois. Je ne fais pas simplement tomber des murs. Je ne fais pas que ramener des édifices au niveau du sol. Je suis l'outil d'un système dont la destruction est condition de sa propre survie. Ce n'est pas le chaos, c'est l'ordre qui se déploie en décombres. Table rase pour un avenir meilleur.
Et avant encore, il y avait la salle bleue. Et la salle bleue, moi, quasi tous les mariages de ma famille ont été faits à la salle bleue. La salle bleue, c'était la salle du quartier où, du coup, les grands événements du quartier, familiaux, etc., ils se faisaient là-bas. Et bon, maintenant, c'est des grues, un cratère, et on attend la suite. La promenade qui longe à côté, c'était là où j'allais me promener avec mon... T'as vu, je suis obligée de regarder dans le vide pour me souvenir. En fait, c'est ça que ça fait. C'est qu'après, t'es obligée de regarder dans le vide pour te souvenir. Mais je crois que j'ai pas... Enfin, pendant longtemps, j'avais ce truc-là de me dire « ça y est, on n'est plus... ça y est, ça disparaît. » Mais en fait, j'ai l'impression que la stratégie de résistance a un espace physique qui te met des coups de pique là dans le cerveau pour que tu soit tu t'oublies pas, soit que ça te pique quand t'essayes de te souvenir, parce que c'est à toi encore de faire l'effort de et à avoir la responsabilité à ce qu'une chose ne meure pas. Et ben c'est de cultiver, ou je sais pas trop comment dire, mais genre de donner à l'espace imaginaire et à l'espace de la mémoire beaucoup plus de place, genre un endroit de presque, au final, tu vois, ils peuvent détruire. On peut regarder dans le vide pour se souvenir. À partir du moment où c'est dématérialisé, moi, j'en suis arrivée à cet endroit, à partir du moment où c'est dématérialisé, c'est plus prenable. Et il y a un truc de, quand je parlais avec ma grand-mère, quand on parlera du 23 rue de Grasse, le 23 rue de Grasse, il existe. Khlas, tu vois. Je sais pas si c'est clair, ma réponse.
C'était « Personne ne se souviendra de nous », un documentaire sur la violence de la rénovation urbaine. En France, entre 2004 et 2022, plus de 175 000 logements ont été démolis dans le cadre d'opérations de rénovation urbaine, transformant la physionomie et la population de plus de 546 quartiers populaires. Merci à Alice Gallois, Jennifer Espagna et Meriem Baya Arfaoui pour leurs mots, leurs histoires, leurs analyses, leurs sentiments qu'elles ont bien voulu nous confier. Pas merci à Antoine Drapeau, obscur fonctionnaire de l'urbanisme, dont nous avons composé des lettres fictives par assemblage d'archives bien réelles de la destruction du quartier Saint-Georges à Toulouse. Merci à Sigrid Bordier pour la voix de la machine et Alex Bordier pour les voix que nous avons censurées. Merci à Ariella pour la chansonnette de Brigitte Fontaine. Merci au studio Comaco pour les prises de son complémentaires. Personne ne se souviendra de nous, une réalisation de Ludo Mepa et Américo Mariani, avec le soutien de la Disquette, le collectif de radiographie urbaine et l'Ortie.
je vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine. Donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits, avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on ne change pas le système radicalement.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine, celui qu'on dirait qu'à Montpellier, qu'un assis, la tenue, bien évidemment.
Au début, il n'y avait rien. Quand soudain...
Oh,